Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man walahi la yumiddin wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'ilamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma ya kareem, Rabbi zidna ilma ya kareem, Rabbi zidna ilma ya kareem. Rabbi shahli sadri wa yassir li amri wa hlul aqdata min lisani yafqahu qawli. Mes chers frères et sœurs, toutes les louanges, les remerciements reviennent à Allah Rabbul Izza qui nous permet de vivre en ce moment la période la plus importante de l'année et je dirais même la période la plus importante de la vie d'un croyant. Cette dernière décade du mois de Ramadan a une telle importance que, bifadlillahi ta'ala wa karamihi, la vie d'un croyant peut connaître un changement radical par l'adoration qui sera faite correctement durant ces 10 jours et la nuit de Laylatul Qadr. Il se peut qu'une personne se présente devant son Seigneur durant cette dernière décade avec un passé, un passif, énormément de péchés cumulés. Et quand on parle de péchés, bien sûr de petits péchés, mais qui n'a pas de petits péchés dans son livret de compte? Je parle surtout et avant tout des grands péchés, des péchés majeurs, des kaba'ir adh-dhunub. Ça peut être une personne qui a commis l'adultère pendant des années. Ça peut être une personne qui était addict à la consommation d'alcool. Ça peut être une personne qui était addict à la consommation de stupéfiants. Ça peut être quelqu'un qui a accompli des péchés graves, tellement graves, et que durant cette dernière décade, sa vie peut changer intégralement parce que la clémence d'Allah qui descend dans cette dernière décade, ben on ne la retrouve pas dans aucune autre période de l'année. La générosité de notre Seigneur Rabbul Izza dans la rétribution, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Mes chers frères et sœurs, notre Seigneur a accordé à cette Ummah, à cette communauté, un cadeau qu'il n'a accordé à aucune autre communauté. Il y a certains cadeaux, certaines vertus qu'Allah a accordées aux autres communautés, mais qui n'a pas été conservé. La révélation des livres, Allah avait laissé aux autres peuples le soin de protéger, de préserver leurs livres. Alors que pour la Ummah du Prophète alayhi salat wa salam, c'est un verset qu'on entend souvent, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, Allah a pris la garantie de protéger notre livre. Donc ça c'est un bienfait qui est khas, qui est spécifique à la communauté du Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa salam. Également la révélation du jeûne du Ramadan, kama kutiba 'alal ladina min qablikum, Allah l'a accordé aux autres communautés, mais ils n'ont pas su conserver cette action comme elle avait été révélée, alors que pour nous, Allah a protégé cette action jusqu'au Qiyamah. Nous jeûnons de la même façon que le prophète alayhi salat wa salam jeûnait lorsque le somme lui a été révélé en l'an 2 de l'Hégire. Par contre, cette fameuse nuit du destin, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr, cela n'a été accordé à aucun prophète avant Mohammed Mustafa alayhi salat wa salam. On connaît certainement les circonstances de révélation de cette promesse divine. Le hadith est connu, ce sont des rappels. Je pense que tout le monde a déjà entendu ces discours et ces bayans concernant la nuit du destin et de façon plus globale de la dernière décade. À maintes et maintes reprises, mashallah, beaucoup de savants s'efforcent à faire passer ces messages et depuis des années. Et donc, nous savons que le prophète alayhi salat wa salam avait reçu l'information que des peuples avant nous, qui avaient donc une espérance de vie beaucoup plus longue que nous, un homme pouvait consacrer plus de 80 années en ibada. Et le sahaba était attristé au vu de l'espérance de vie. À leur époque, ils se disaient que jamais on pourra adorer Allah autant que ceux qui appartenaient au peuple de Moussa alayhi salam, au peuple de Isa alayhi salam et aux autres prophètes avant nous. Et Allah Rabbul Izza révélait donc cette récompense et cette promesse divine qui permet aux ummati, aux gens de la communauté, à nous tous, aux sahaba, aux tabi'in, aux atba'i tabi'in, à chaque croyant jusqu'au qiyamah, d'avoir quantité de récompenses et de pouvoir d'une certaine façon, je ne veux pas dire rivaliser, mais avoir autant de récompenses, autant d'années d'adoration que les peuples avant, même beaucoup plus. Ainsi donc, cette nuit du destin, quand on parle de la dernière décade, on verra un peu les efforts à faire, mais vraiment ce que nous ciblons, ce que nous cherchons, c'est bien sûr Laylatul Qadr, parce que, comme on a dit en introduction, une vie de péché peut être lavée entièrement par une implication totale et sincère lors de cette dernière décade. Tout comme une vie d'épreuve une vie d'épreuve peut changer, basculer, mais basculer même du bon côté. Une personne peut retrouver la santé, la rafia, la protection, le bien-être, l'apaisement du cœur, la solution à ses problèmes, j'ai dit de santé, mais à ses problèmes de couple, ses problèmes familiaux, ses problèmes professionnels, les problèmes qui l'agitent, qui le perturbent, qui le ralentissent dans sa vie. On peut trouver l'ouverture à la nusrat d'Allah également durant la nuit du destin qui se trouve dans l'ADN des cadres du mois de Ramadan par le biais d'invocation, par le biais de doua sincère. On peut trouver dans cette dernière décade, on peut obtenir plutôt tellement de bonnes actions que le jour de Qiyama, tellement de récompenses. Je voulais dire que le jour de Qiyama, dans le mizan, le jour de compte, lorsque les actions seront pesées dans les balances, on connaît le verset « Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara » justement l'atome, le yota de bonne action sera visible. Ben, imaginez un subhanallah qui aura été prononcé lors de la nuit du destin, deux unités de prière qui auront été accomplies durant la nuit du destin, 1 euro en aumône qui aura été donné durant la nuit du destin, c'est l'équivalent de 1000 mois al-fishar, c'est-à-dire à peu près 83 années de cette même adoration. C'est multiplié par 83 années en intensité, en récompense, et cela découle de la grande générosité de notre Seigneur Azza wa Jal. Ainsi donc, après cette introduction, c'était pour nous faire prendre conscience que notre vie peut changer. Et même si je suis, mashallah, un croyant plus ou moins assidu dans mes pratiques, je peux passer à un niveau supérieur. Personne ne doit, de 1, se suffire de son niveau, de 2, se persuader qu'il est un bon niveau de spiritualité, que notre lien avec Allah, il est bien, je suis un bon croyant, parce que personne ne connaît la réalité de notre foi. Je ferai juste une parenthèse pour qu'on ait une idée du danger du fait de penser qu'on est dans le droit chemin, qu'on est bien et qu'on est protégé. Lorsque l'antéchrist Dajjal viendra à la fin des temps, le prophète alayhi salat wa salam nous a mis en garde contre tout ce que Dajjal va apporter comme miracle, des choses extraordinaires qu'Allah lui donnera le pouvoir et la possibilité de faire pour un temps limité, tout comme Allah a donné à Shaitan la capacité d'embellir les péchés et de faire le waswasa, l'insufflation de le cœur des gens. Allah va donner donc à Dajjal la possibilité de faire des choses extraordinaires, et cela interviendra dans un contexte de crise, dans un contexte de grande famine après 3 années de disette où les gens seront en difficulté. Et donc Dajjal, oui, le prophète a mis en garde contre Dajjal, et ce qui nous intéresse, c'est que le prophète a dit que idha sami'tum, si vous entendez qu'il est dans un endroit, n'allez surtout pas le voir. Et pourquoi il faut surtout pas aller le voir? Parce que le croyant pense qu'il est ferme dans sa foi, qu'il a un niveau de iman et de conviction en Allah, de pratique religieuse qui est tellement dense, ancrée, qu'il est immunisé contre le mal, contre les fitnas, contre les troubles et contre les doutes. Mais la personne risque de voir l'antéchrist avec des miracles exceptionnels, des miracles, donc qu'on dit miracles, de toute façon ça dépasse l'entendement, et que la personne chute et réalise qu'en finalité le iman bil rahim n'était pas ancré dans son cœur, sa foi n'était que superficielle, et la personne finira par suivre l'antéchrist et renier son iman à sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est pour nous, juste pour nous faire comprendre que personne ne peut juger du niveau de sa foi. On n'a pas à se suffire de nos pratiques, et donc même si j'ai une pratique plus ou moins correcte, c'est vraiment l'occasion d'augmenter mes récompenses et de trouver un pardon total pour mes péchés. Et de façon plus générale, plus terre à terre, je veux dire, qui concerne plus ma vie de tous les jours, mon dunya, ben c'est le taqdir d'une année. Taqdir de Ramadan 1445 jusqu'à Ramadan 1446, chaque événement qui va se produire. Et on va voir ça un petit peu en détail. Alors, je le dis encore, c'est un rappel. Déjà, vous avez entendu beaucoup de rappels concernant la nuit du destin. On fait juste un petit passage rapide et synthétique. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr, récompense des actions multipliées. Ça fait à peu près 83 années, un peu plus. Il y a un petit croquis, un petit dessin que j'aime bien, qui circule sur les réseaux sociaux. On voit un homme en prosternation
avec, voilà, on dit une nuit égale 83 années, une heure égale combien, j'ai pas les chiffres en tête, une minute égale combien, une seconde, ça te fait combien de récompenses en nombre de jours, de mois, ainsi de suite. C'est un calcul mathématique simple, mais il faut savoir que la générosité d'Allah, elle est exceptionnelle, et cette grande récompense divine nous permet de réaliser le hadith de lequel le prophète alayhi salatu wasalam a dit qu'Allah Rabbul Izza a mis à rahma, Allah a 100 bénédictions et il accorde une rahma, c'est-à-dire un centième de sa rahma, couvre les habitants de cette terre, les croyants, mais également ceux qui ne croient pas en lui. Et 99 autres rahma, c'est-à-dire que 99% de sa grande clémence, Allah le réserve pour les croyants le jour des comptes. Donc si notre Seigneur est capable de nous rétribuer autant pour une nuit passée en adoration, quelle sera donc sa clémence avec nous le jour des comptes, qu'Allah nous fasse bénéficier de cette rahma. Et si on parle de rahma, de clémence de notre Seigneur, permettez-moi une autre parenthèse qui nous ramène un peu les pieds sur terre, qui nous fait réaliser que notre religion, elle est juste, elle est équilibrée, elle est cohérente. Il n'y a rien de démesuré, il n'y a pas une spiritualité excessivement engagée si en parallèle je néglige le droit de ma famille, de mes parents, de mes voisins et le bon comportement et ma façon de travailler. C'est lorsque notre prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle ar-rahamaou yarhamuhum ar-rahman yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa. Le prophète nous rappelle que ceux qui font preuve de gentillesse, de bonté, de générosité, de clémence avec leur prochain, c'est celui qui a un grand cœur, celui qui aide, celui qui donne à manger, celui qui accueille, celui qui prend le temps d'écouter, celui qui a de la pitié, celui qui pardonne, celui qui n'est pas regardant sur ses droits, mais fait preuve de compassion et accepte les manquements, les faiblesses de l'autre. Cette personne qui a donc de la compassion, et par opposition à la personne qui a de la compassion, c'est quelqu'un qui a un cœur dur, quelqu'un qui ne pardonne pas, qui est intransigeant, qui est psychorigide, hein, c'est les termes nouveaux qui sont utilisés, ainsi de suite. Bah, pour ça, on dit que celui qui fait preuve de clémence à l'attention de son prochain, ce sont ces personnes-là qui vont bénéficier de la clémence d'Allah, mais également de la clémence des anges, des habitants des cieux. Qui va bénéficier de la clémence d'Allah, yarhamuhum ar-rahman. Et le prophète dit, la suite du hadith c'est plutôt cela, faites preuve de clémence, de pitié, de compassion, et ceux qui sont dans les cieux auront de la compassion pour vous. Ce qui nous permet de comprendre par mafhum ou khalafa, par compréhension inversée, que celui qui n'a pas de pitié, de compassion pour son prochain, ne pourra pas obtenir la pitié, la clémence, la miséricorde et la compassion de notre Seigneur. Donc, la rahmat d'Allah, qui se traduit par cette récompense qui est exceptionnelle. Dans la nuit du destin, le taqdir d'une année. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Le pardon divin qui est immense. Et certains savants sont d'avis que le pardon d'Allah durant la nuit du destin, le pardon d'Allah qui est immense, ça c'est une réalité, là je parlais de notre thématique, la délivrance, pardon, du feu de l'enfer. Certains savants sont d'avis que Allah délivre encore plus de gens du feu de l'enfer pendant la nuit du destin que durant toutes les nuits du mois de Ramadan. Il y a deux avis, d'autres savants disent que non, c'est un même quota, mais ce que nous retenons, c'est que si nous passons cette nuit en adoration, nous pouvons obtenir notre éventuelle, Allah nous protège, libération du feu de l'enfer par rapport à des péchés qu'on aurait accompli, cumulé, et pour lesquels on n'aurait pas demandé tauba et qu'on aurait peut-être retrouvé dans notre livret de compte le jour de Qiyam. Dans la nuit, pendant la nuit du destin, la venue des anges en quantité sur terre, et entre autres l'ange Jibril, alayhi salam. Ça fait 5 ou 6 ou alors 7 à peu près grandes vertus de cette nuit du destin. Alors la question qu'on se pose maintenant, comment convertir maintenant cette connaissance que nous avons, cette prise de conscience des vertus, comment convertir tout ça en action, que ça ne reste pas que des paroles qu'on entend régulièrement. Nous devons suivre le modèle prophétique. At-ta'assi bin Nabi alayhi salatu wassalam. Nous devons voir qu'est-ce que le prophète sallam faisait pendant cette décade. Alors de façon très synthétique également, on va citer en trois points, le prophète sallam passait chacune des nuits de la dernière décade en adoration. C'est important, on, met beaucoup en avant la date de la nuit du dessin. J'ai pas développé ce point, que c'est quelle date et ainsi de suite. On retiendra juste de façon globale que c'est pendant les nuits impaires de la dernière décade. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le prophète alayhi salat wa salam, lorsque c'était la dernière décade, il avait un changement de comportement, une augmentation du quota de ibadah radicale pendant cette dernière décade, sans distinction des nuits paires ou des nuits impaires. Hadith de Aisha رضي الله عنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. Le prophète faisait des efforts durant le mois de Ramadan, des efforts de ses bonnes actions, de ses bonnes œuvres, beaucoup plus qu'en dehors. Et si on peut se permettre une petite précision, le prophète عليه الصلاة والسلام n'a jamais abandonné le qiyam al-layl durant toute sa vie. Le prophète n'a jamais abandonné la prière de la nuit, le tahajjud, durant toute sa vie. Il le faisait tout le temps. Mais durant le mois de Ramadan, il le faisait encore plus. Et durant la dernière décade, il faisait des efforts qu'il ne faisait pas en dehors de cette décade, c'est-à-dire même durant les 20 premiers jours de Ramadan, les 20 premières nuits, le prophète ne faisait pas autant d'efforts qu'il faisait durant cette dernière décade. Le hadith est rapporté par Muslim et le shahid, ce que nous devons retenir, c'est que Aïcha parle de la dernière décade et non pas de nuit impair. Donc, ce que nous devons intégrer, c'est l'importance à donner à ces 10 nuits. C'est-à-dire depuis qu'on est entré dans la nuit du 21e jusqu'à la veille de Eid. Et ce serait dommage de se dire que voilà, bon, je prends l'exemple d'hier soir. Aujourd'hui, on est mardi 2 avril, donc 22e, oui, Ramadan à La Réunion. Donc hier soir, c'était la nuit du 22. Donc ce serait une erreur et dommage et déplorable de se dire que bon, la nuit du 21, mashallah, je me suis réveillé à 2h, 2h30, j'ai fait telle bonne chose. Bah, demain, c'est la nuit du 22, donc on met sur pause, on baisse un peu la pression et je me réveille à 4h tranquille comme les autres nuits du Ramadan. Non, ce serait dommage. Et ce qu'il faut faire, c'est le même quota d'efforts durant cette décade, durant les nuits paires et impaires. Deuxièmement, on va un peu plus vite, le prophète passait l'intégralité de la nuit en ibad, et chose qu'il ne faisait pas les autres soirs du Ramadan. Je ne sais pas si certainement on a entendu parler du hadith où il y avait des sahaba qui étaient venus voir le prophète et qui débordaient de motivation, d'envie de plaire à Allah. Il y en a qui a dit que moi, à partir de maintenant, je ne dors plus, je passe toutes mes nuits en ibadah. Et il y en a qui a dit que moi, je ne vais pas me marier, je vais consacrer ma vie à l'adoration. Et l'autre qui a dit que je ne mange plus jamais le midi, je vais jeûner toute l'année. Et le prophète alayhi salat wa sallam était très en colère. Il a dit faman raghiba an sunnati fa laysa minni, celui qui s'éloigne de ma sunna ne fait pas partie de moi. Il a voulu faire passer ce message aux sahaba et à l'ensemble de la umma que dans la religion, dans la pratique, il y a un juste milieu, le droit d'Allah, mais ensuite il y a ton droit, le droit de ta famille. Donc le prophète ne passait pas les nuits entières en adoration en dehors du mois béni. En dehors du mois béni, et même durant les 20 premières nuits du mois de Ramadan, le prophète dormait et il se réveillait pour le tahajjud. Et par contre, durant la dernière décade, le prophète passait l'intégralité des nuits en adoration. C'est ce que nous devons retenir et c'est là notre modèle alayhi salatu wassalam, et c'est l'objectif à atteindre, ou alors faire le maximum d'efforts pour essayer d'atteindre cet objectif. Hadith, كان النبي non, on va aller plus vite. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم, on choisit le hadith d'Imam Muslim, toujours de Aisha رضي الله عنها, إذا دخل العشر, le hadith est un peu long, le shahid qu'on retient c'est أحيا الليل, il passait la nuit en adoration. Maintenant, c'est ce qu'on a eu l'occasion de préciser récemment et qu'on précise plus ou moins tous les ans dans nos interventions, bifadlillahi ta'ala wa karamihi, si vous avez la chance, par exemple, d'être à Mecca ou à Medina en ce moment. Vous êtes parti pour la Umrah et vous passez votre dernier décade dans un des deux lieux saints. Donc vous savez que vous y êtes pour la Ibadah. Vous pouvez vous permettre de passer la nuit en adoration. Et franchement, ce serait dommage de ne pas le faire. Deuxième cas de figure, vous avez la chance d'avoir un bon travail, un gentil patron qui vous a donné congé durant la dernière décade, qui a accepté votre demande de congé. Ou alors vous êtes chef d'entreprise ou autre chose, en vous souhaitant beaucoup de courage pour les charges sociales et ainsi de suite. Mais voilà, vous disposez de vos journées de liberté quand vous voulez. Mashallah, grand ni'ma. Si vous savez que vous avez la possibilité de rattraper le sommeil, le quota de sommeil de la journée, vous pouvez vous permettre, mashallah, de passer la nuit en ibadah sur quelque chose de magnifique. Autre cas de figure, j'allais oublier celui-là, si vous avez l'honneur d'accomplir l'i'tikaf, mashallah, les frères qui sont en ce moment de l'i'tikaf à la masjid, c'est vraiment fursa, l'occasion de passer les nuits en ibadah, sachant que le lendemain, ba'da al-fajr et après le ishraq, les amal que chacun a l'habitude de faire le matin, il y a la possibilité au moins de, à partir de 7h30, 8h, de rattraper le sommeil jusqu'à midi, de refaire une petite sieste l'après-midi de 15h à 16h et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il faut quand même que l'être humain puisse tenir, parce que sans sommeil complètement, c'est compliqué. C'est compliqué, il ne faut pas qu'il y ait ensuite de négligence dans les prières obligatoires ou ainsi de suite. Donc, on retient que si j'ai la possibilité, oui, de faire au mieux. Maintenant, si je dois travailler le lendemain et que j'ai en plus un poste à responsabilité ou un travail sensible qui nécessite mon attention, qui nécessite une certaine précision, dans ce cas, à nous de voir ce que nous pouvons consacrer comme temps en ibadah. Et Allah Rabbul Izzah connaît notre niyyah, notre intention. Allah connaît que si on avait l'intention, si on avait la possibilité, on aurait passé la nuit en ibadah et Allah est capable de nous accorder une récompense qu'on n'imagine pas. Je cite un autre cas de figure, cette personne qui se décide, mashallah, je vais passer la nuit en ibadah, il finit la salat de tarawih à 22h, il rentre chez lui, il prend un repas léger, il prend une douche, il se met en bonne condition, il met des vêtements propres, et ainsi de suite, et à 23h, mashallah, il est déjà sur son sajjada. C'est son tapis de prière, et il dit que voilà, je vais commencer par un peu de l'étude du Coran. Il lit un juz, deux juz. Je vais faire ensuite dhikrullah, je vais demander le fameux dua, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Et il commence à prier. Il commence à prier, il est minuit 15, minuit 20. Et il a sommeil, subhanallah. Et il s'endort, soit dans la prosternation, ce qui est pas mal, ou alors il se dit, bon, je fais une petite pause, il s'assoit, il s'appuie un petit peu entre deux rak'at, voilà, il se dit, voilà, je fais une petite pause, je respire, je bois un peu d'eau, et, mashallah, il dort. Et il se réveille en sursaut à 3h30, à 4h du matin. Que cette personne soit rassurée, Allah est témoin de sa bonne intention, Allah est témoin de ses efforts, Allah est témoin de son sacrifice. Il a sacrifié son sommeil pour son Seigneur. N'oublions pas que notre Seigneur est clément et miséricordieux. À nous de faire le maximum d'efforts jusqu'à la limite. Là, franchement, dans la dernière décade, il faut y aller jusqu'à la limite humaine, jusqu'à ce qu'on pense qu'on risque de flancher, pas de craquer, mais là, on n'en peut plus. Et Allah est satisfait de ce croyant qui fait autant d'efforts. Le prophète sallam réveille également la famille pour prier, hadith qui est rapporté par Tirmidhi, hadith de Zainab. Le prophète sallam, « Kana lam yada' ahadan min ahlihi yatiqul qiyam » Yutiqul qiyam illa aqamahu, tous ceux qui pouvaient se lever, se réveiller, tenir debout, le prophète les réveillait. Et le masla est connu, même une femme qui n'est pas en état de prier, elle doit répondre présent dans cette dernière décade. La seule chose qu'elle ne fera pas, ce sera la salat et la lecture du Coran, mais elle peut consacrer une grande partie de sa nuit au dhikrullah, à lire le fameux doua de pardon de la nuit du destin, et à faire quantité de doua pour elle, pour son mari, pour ses enfants, et ainsi de suite. Non. Et certains sahaba comme Anas bin Malik avaient l'habitude de prendre un bain, ils mettaient de beaux habits spécifiques pour les nuits d'adoration, et ils se parfumaient. On va dire que sur une approche psychologique, c'est quelque chose qui peut nous aider, qui peut nous canaliser, qui nous permet de focaliser notre attention et de réveiller le cœur pour réaliser que on est en train de faire quelque chose qui est spécifique, qui est unique, d'avoir des vêtements spécifiques pour ces nuits de prière, de beaux vêtements, et se parfumer, avoir pris un bain en amont. Après, c'est moi qui rajoute, hein, si on a besoin d'un petit stimulant pour être bien réveillé, il n'y a pas de mal à boire un café, à prendre des vitamines, hein, vous prenez un Sargénor et ça aide. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais voilà, trouver des solutions, chacun connaît ce qu'il peut faire pour permettre de trouver une certaine vitalité. Et puis peut-être, voilà, rattraper le sommeil de la journée, et ce quota de sommeil, ça nous permet de tenir debout la nuit. Je pense qu'on va s'arrêter là, on est à 25 minutes. Je pensais pouvoir compléter l'intervention sur la nuit du destin, mais non, ça risque d'être encore un peu long. Ce qu'on verra, Inch'Allah, la prochaine fois, C'est le sens de Qadr. Inna anzalnahu fi laylatil Qadr. Il y a deux sens de Qadr. Et on essaiera d'énumérer quelques actions, de donner quelques conseils concernant notre implication. Et là, on parle de concentration, de dévotion de nos a'mal durant cette nuit, durant ces nuits. Qu'Allah Rabbul Izzah nous accepte et nous donne la possibilité de répondre présent pour les nuits qui restent de cette dernière décade et que nous soyons présents pour la nuit du destin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan.